Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Ils attendent peut-être déjà au pied du sapin, bien sagement dans leurs emballages avec leurs petits nœuds. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, on parle cadeau ce matin et cartes. Des cartes de France, amusantes, intrigantes, ludiques, qui permettent de voyager dans une France moins connue, découvrir par exemple les musées les plus insolites du pays, comme celui de la vaisselle cassée ou encore celui du cure-dent, découvrir aussi quelles sont les régions où on s'insulte le plus, ou la France des noms de villes, pas toujours facile à porter. C'est une leçon de géographie détournée qu'on vous propose ce matin. Avec toute la bande de Grand Bien vous fasse qui arrive des cadeaux plein la hotte. Bonjour Maya Mazorette.
Bonjour Thomas.
Alors qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui ?
Eh bien, en ce jour où nous célébrons le produit d'une immaculée conception, je vais répondre à une question que les enfants se posent. Pourquoi est-ce qu'on fait l'amour ?
D'accord, pas comment mais pourquoi ?
Alors, pourquoi, mais aussi, pourquoi est-ce qu'on a du mal à répondre à cette question? Voilà.
Eh bien, ce sera tout à l'heure, un peu avant 11h. Bonjour Christina Pelledwell.
Bonjour Thomas.
Alors, qu'est-ce que vous nous offrez ce matin?
Alors, ce matin, je vous offre un très beau livre, et grand livre, et lourd livre, il ne doit peser plus de 2 kilos, sur les oiseaux. De quoi s'envoler?
Eh bien, ce sera parfait pour arriver jusqu'aux épaules de Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Thibaut.
Bonjour Thomas.
Et vous?
Eh bien, qui dit 24 décembre dit réveillon, qui dit réveillon dit repas, qui dit repas en famille, qui dit repas en famille dit conversation parfois délicate. Petit tuto philosophique pour essayer de survivre à ces conversations philosophiques.
On en aura bien besoin, merci d'être avec nous. Grand Bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau. Grand Bien vous fasse.
Avec nous également l'anthropologue Abdoug Naba, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et puis nous serons aussi au téléphone pour passer en cuisine avec Angèle Ferremag qui nous fera une recette végétarienne tout à l'heure dans une petite demi-heure au cours de l'émission.
Oh, un parfum! Ah non, c'est un déo. Efficacité 48 heures. Bah merci, c'est cool. Ah, une chemise. T'as gardé le ticket? Non, juste au cas où, si jamais j'ai envie d'aller l'échanger ou peut-être même le rendre. Oh, c'est mamie qui m'a envoyé une petite carte avec un petit chaton trop mignon, c'est adorable. Y'a pas de chèque? Y'a pas de chèque. Cadeau suivant!
C'est un petit bonsaï que j'ai ramené de mon voyage au Japon.
D'accord.
Il mesure combien?
Oh, je sais pas, il mesure 45 cm.
Il pèse combien?
Je sais pas, je dirais 500 grammes.
C'est bon, sans vente sur eBay.
Un petit extrait de l'humoriste Norman et des cadeaux de Noël, puisqu'on va les ouvrir ce soir ou demain matin. Alors c'est vrai, la plupart du temps, les cadeaux font plaisir, on est heureux de les recevoir, mais il faut aussi l'avouer, il y en a qui sont franchement déceptifs. Moi je me souviens, à l'âge de 9 ans, sous le sapin de ma tante, j'ai eu un Monopoly. Le Noël suivant, sous le sapin de ma tante, j'ai eu le même Monopoly. En plus, c'était même pas l'édition prestigieuse, hein, c'était le tout petit Monopoly de poche. Alors je ne sais pas, quel est le cadeau que vous n'avez pas aimé recevoir, Christina?
Alors moi, il y en a eu deux. Il y a eu un cadeau, franchement, je ne sais pas comment, peut-être maintenant, en réfléchissant, je me dis c'était peut-être pas si bête, c'était peut-être prémonitoire. C'était une corbeille à papier, imaginez-vous. Donc alors, est-ce que ça voulait dire qu'il fallait que je jette tout ce que j'étais en train d'écrire, ou est-ce qu'au contraire, c'était pour m'éviter la difficulté de choisir? Je n'en sais rien, enfin bon, j'ai moyennement...
Vous l'avez mal pris.
Ouais, pas très bien. Et la deuxième fois, eh ben, c'était encore plus simple, c'était pas de cadeau du tout.
C'est que vous n'aviez pas été sage, c'est différent.
Ben, peut-être bien, mais moi j'avais fait des cadeaux à tout le monde, donc j'ai regardé tout le monde ouvrir ses cadeaux, et moi, rien. On avait oublié. Et voilà, donc je ne l'ai pas très bien pris non plus. Je n'ai pas très bien vécu cette journée-là. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, oui, je suis submergée de cadeaux.
Et on en a plein pour vous encore jusqu'à 11h ce matin. Maya, un cadeau que vous n'avez pas franchement apprécié?
Oui, déjà, c'est un peu casse-gueule de répondre à cette question parce qu'on a toujours peur que la personne écoute l'émission.
C'est vrai.
C'est un peu un piège, on peut le payer très cher. Mais je vais quand même répondre. On m'a offert un moment, un super aquarium, un moment où moi, je me sentais très claustrophobe dans ma vie. Et en mettant les poissons dedans, enfermés comme ça dans cet aquarium, j'y ai vu une image de ma propre situation et j'ai détesté cet aquarium, mais de toutes mes forces, qui m'a semblé être le symbole de tout ce que je détestais dans ma vie à ce moment-là. Je m'en suis débarrassée dès que j'ai pu.
Sur eBay, c'est ça?
Non, je l'ai balancé. Vraiment, j'ai honte, hein, mais Non, je pouvais pas, c'était horrible.
J'espère en effet que celui qui vous a fait ce cadeau ou celle qui vous a fait ce cadeau n'est pas
sinon,
dans l'écoute de France Inter ce matin. Thibaut.
Oui, c'est ça. Alors, s'il vous plaît, tous ceux qui me ont fait des cadeaux un jour à Noël, éteignez le poste, éloignez-vous. Donc c'est un peu délicat, donc on va repartir loin, loin, back in the days. Mais en fait, non, c'était tout simple, c'est enfant, on grandit, et effectivement, parfois les grands-parents, voire même les parents, ne voient pas forcément qu'on grandit. Et je me souviens d'avoir reçu vers l'âge de 9-10 ans, par exemple, c'était du papier à lettres, par exemple, voilà, c'était tout, tout bête, mais c'était un papier à lettres un peu enfantin. Et j'ai été, en fait, c'est très utile du papier à lettres, enfin c'était très utile à l'époque, mais je me souviens d'avoir été en fait déçu parce que je me disais mais quand même ils ont pas vu que j'ai grandi et que donc un papier à lettres avec des chevaux, bah en fait je vais pas écrire à mes amis avec ça quoi.
Voilà. Mais peut-être qu'ils attendaient des lettres de vous.
Peut-être, mais voilà, en fait c'était la déception, c'était vraiment une déception d'enfant qui attend que le cadeau soit un message, un signe qui dise aussi on te connaît, on te voit grandir, etc. Une reconnaissance exactement.
Alors c'est vrai que bon, il y a des cadeaux qui font pas forcément plaisir, qui sont déceptifs, hein, comme on le disait. Mais quand on remonte un petit peu dans l'histoire, Abdou, est-ce qu'on peut dater ce moment où l'homme a décidé de faire un cadeau à un autre homme, pas forcément aux dieux dans l'offrande, hein, mais à un autre homme, un individu comme lui?
Ah bah, la question est piégée parce que effectivement, il est très rare d'assister à des cadeaux qui sont faits directement d'humain à humain, parce qu'il y a toujours une intention dans un cadeau, en fait. Le désintéressement n'existe pas. Et c'est effectivement pour faire plaisir aux dieux.
C'est l'esprit de Noël, sympa.
C'est l'esprit. Mais dans l'esprit de Noël, il y a aussi la conjuration de l'avenir, en fait. Quand on fait un cadeau, c'est d'abord pour dire merci au passé et pour signifier ce présent. C'est pour ça que quand on fait un cadeau, on fait toujours un présent et conjurer l'avenir. C'est toujours une augure que de faire un cadeau, et d'accepter que nous sommes tous sous le joug des astres et des jours réguliers, et que pour s'en sortir, il faut savoir offrir quelque chose de soi à un autre, qui, attention, d'une manière ou d'une autre, doit vous le rendre.
Oui, il n'y a pas de cadeau gratuit.
Non, rien.
Rien n'est gratuit. Il y a un proverbe inuit que j'aime beaucoup là-dedans, c'est les cadeaux font les chiens. C'est-à-dire que offrir un cadeau à quelqu'un, ça crée une obligation qui, dans un contexte social particulier ou dans un contexte de lien, fait qu'on se sent redevable. Et qu'une manière, finalement, d'entretenir quelqu'un dans une dette, c'est de lui faire un cadeau. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est assez rigolo.
Ah oui. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de celui qui vous dira « Ah non, non, c'était absolument pas nécessaire.
» Oui, Marcel Mauss, n'est-ce pas, Abdou, a théorisé cette question du cadeau, du don et du contre-don.
Le don et le contre-don, donc, qui est là pour pouvoir signifier votre position sociale. Vous offrez quelque chose dont vous pouvez vous passer. Et plus cette chose a de la valeur, plus celui qui le reçoit est censé vous rendre quelque chose d'au moins valeur égale. Mais attention, ce n'est pas juste un échange matériel. Il y a dans cet objet ce qu'on appelle la mana, et la mana, c'est l'esprit. C'est donc à travers un objet l'esprit de la chose que vous offrez, et si vous la gardez, cet esprit vous détruira.
Alors moi j'ai un cadeau pour vous, je ne sais pas s'il est empoisonné ou pas, et en tout cas je ne souhaite pas que vous me le rendiez après, hein. Il est franchement désintéressé. On s'est amusé à essayer d'identifier le top 4 des chansons de Noël qui rentrent dans la tête, mais que vous avez encore le 15 juillet. Vous voyez, le genre de franchement.
Celle qu'on peut
fredonner encore.
Ah non, c'est pas un cadeau.
Et voilà, ça donne ça.
Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers.
Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année, grand-mère.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy
Ha ha ha.
Joyeux Noël. Tino Rossi, Dalida, le standard We Wish You a Merry Christmas par les Platters et Mariah Carey qu'on entend, je pense, dans à peu près tous les centres commerciaux du monde entier, hein, pas uniquement de France et des États-Unis. Et puis ce matin, on se fait plaisir aussi, et peut-être un peu plus sérieusement, mais de manière assez drôle également, hein, un drôle de sérieux en tout cas, en feuilletant un livre de cartes, des cartes de France, assez décalées je dois dire. On trouve par exemple la carte des régions où on s'insulte le plus, la carte des musées les plus improbables. Il faut vraiment être un amateur pour savoir qu'il existe un musée du cure-dent. Ce livre s'appelle Cartomania France, c'est aux éditions de La Martinière, et son auteur est avec nous en duplex grâce à France Bleu Loire-Océan. Bonjour Eudidal.
Bonjour.
Alors d'où vous vient cette passion des cartes détournées ?
C'est la passion des infos un peu à la noix que vous venez de mentionner, et puis sous leur forme visuelle. Ce qui est vraiment intéressant quand on conçoit un ouvrage de ce type-là, c'est que ça oblige à être très synthétique. Alors il y a effectivement des choses qui sont un peu cocasses ou insolites, et puis il y a des choses évidemment plus sérieuses, mais ça oblige à faire un grand tri entre justement ce qui est absolument essentiel ou ce qui est totalement superflu, et tellement superflu qu'il faut absolument le mettre. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de transmettre ces infos-là visuellement, et donc de manière extrêmement immédiate pour ceux qui prennent le livre en main.
Oui, parce que ce qui est amusant quand on le feuillette, c'est que bon, évidemment, c'est bien un hexagone hein, qu'on a sous les yeux, mais ouais, qui raconte une autre histoire, c'est une autre France qui se dessine.
C'est une France inattendue, c'est évidemment ça l'autre avantage, enfin l'autre truc très drôle quand on le conçoit, et j'espère aussi à le feuilleter, c'est que ça bat en brèche à peu près tous les a priori, en tout cas beaucoup d'a priori qu'on a sur la France. Voilà, je vais donner quelques exemples très rapides, hein, mais quand on pense Notre-Dame, on pense forcément Notre-Dame de Paris, et on oublie complètement qu'il y en a 35 autres en France, des Notre-Dame. Voilà. Quand on pense pluviométrie, voilà, précipitation, on s'imagine qu'il pleut plus dans le nord, hein, la fameuse drache qu'il y a dans le nord de la France ou en Bretagne, bah, pas du tout, il pleut presque trois fois plus à Biarritz que dans le nord de la France. Voilà. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines, voire des centaines.
Oui, alors par exemple, on apprend en cours de géographie que, en fonction de l'âge qu'on a, hein, que le Mont Blanc mesure soit 4807 mètres, soit 4808. Mais vous, c'est pas le Mont Blanc qui vous intéresse, c'est pas le plus haut sommet de France, ce sont justement les autres, ceux qui vivent dans l'ombre du Mont Blanc.
Oui, par exemple, le fait qu'il y ait un sommet en Bretagne. Voilà, je reviens à la Bretagne, hein, désolé, il se trouve que je suis originaire de la région. Mais on n'imagine pas qu'effectivement, il y a un massif, le fameux massif armoricain, les Monts d'Arrée, et qu'il y a un plus haut sommet de Bretagne. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment cette mise en perspective entre l'ultra connu et puis le beaucoup moins connu ou le très anecdotique.
Alors l'ultra connu, par exemple, vous avez répertorié avec précision hein, les noms des personnages célèbres qui ont laissé leur nom aux rues de France.
Ah oui, alors évidemment, sans doute, hein, il y a des avenues, des rues, des places Charles de Gaulle. Il y en a de mémoire plus de 3800, quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, c'est le top absolu. Juste derrière, c'est Louis Pasteur et derrière, c'est Victor Hugo. Ce que je retiens, hein, sans parler politiquement correct, c'est que dans le top 10, il n'y a aucune femme. Voilà.
Il y a d'ailleurs énormément de femmes qui se battent et qui accolent maintenant des noms de rues de femmes à la place des noms d'hommes, en effet. Et en même temps, c'est pas un nom d'homme célèbre qui a été donné le plus aux rues de France, c'est la rue de l'Église.
Voilà, exactement. Alors, évidemment, il y a des noms et puis il y a des noms de rues qui sont donnés en fonction de choses tout à fait prosaïques, c'est-à-dire l'église la plus proche, un moulin pas loin, la Grand Rue. Un nom très très courant, c'est la Grand Rue tout simplement parce que c'est la rue principale. On s'est pas beaucoup embêté, on n'est pas allé chercher très loin comment la baptiser, c'est tout simplement Grand Rue.
Et puis, je le disais en préambule, vous avez aussi recensé les musées les plus incongrus de France. Et donc, il y a ce fameux musée du cure-dent.
Alors, il y a le musée du cure-dent. Il est pas mal parce qu'on peut se demander...
C'est à Laval.
Voilà, à Laval, exactement. Bon, il y en a un que j'aime bien. Et si je vais vous poser une petite question, je me permets de vous retourner une question. Vous vous souvenez forcément du dîner de cons? Voilà, et de son fameux François Pignon avec ses monuments en allumettes. Bah, figurez-vous qu'il existe un vrai François Pignon. Alors malheureusement, il est décédé en 2010, mais dans un petit village du Morbihan, il a créé un musée des monuments en allumettes. Il en a créé une trentaine, en à peu près 30 ans. Voilà, donc il y a un magnifique Mont-Saint-Michel avec de mémoire 40 000 allumettes. Il y a un Chambord de 125 000 allumettes. Enfin voilà, il y a des gens qui sont assez frappadingues pour créer des musées de ce type-là. Et vous mentionnez, je crois tout à l'heure, le musée de la celle cassée. Alors, c'est pas exactement un musée, mais c'est quelqu'un qui était ancien livreur. voilà, ancien livreur de lait, et puis il a voulu retaper sa cuisine un jour. Il a trouvé ça joli, un peu par accident, parce qu'il avait une assiette brisée, de coller des petits morceaux d'assiette brisée pour faire mosaïque. Et puis il a un copain qui était éboueur, il lui a dit, donne-moi tous tes morceaux que tu trouves dans les poubelles de vaisselle brisée. Et il a tapissé toute sa maison, intérieur et extérieur, donc tout l'extérieur de la maison, de fragments de vaisselle brisée. Ça, c'est devenu le musée de la vaisselle brisée.
Est-ce que c'est la maison Picassiette ou est-ce que c'est autre
non,
chose?
Non, c'en est une autre.
C'en est une autre.
Hein. Ouais, la maison Picassiette est plus connue, vous avez tout à fait raison, mais celle donc que je vous mentionne est une autre. Alors, pour vous la visualiser, il y a un magnifique papillon, voilà, en vaisselle cassée qui est sur le fronton, sur la façade de la maison.
Alors, pour revenir à ce musée aussi incongru, qu'est le musée du cure-dent, sont des tout petits objets, mais qui racontent aussi un petit peu différemment l'histoire de France. Il y a par exemple un cure-dent qui aurait dû servir notamment à empoisonner un roi. Il y a un cure-dent qui raconte l'histoire des poilus dans les tranchées. C'est une autre façon aussi de raconter la France, ces musées étranges.
Oui, bah parce qu'ils prennent par la tangente, ils prennent par le plus anecdotique, par le plus petit dénominateur commun, on va dire, ce qui relève de la grande histoire. C'est ça qui est, ça qui est intéressant. Il faut aussi dire, malheureusement, que tous ces musées sont pas forcément dans le top hein, des visiteurs et des plus fréquentés. Derrière
les Louvre, c'est 10 millions de visiteurs
exact,
annuels.
C'est ce que j'allais dire, on est très très loin du Louvre. Il y a à peu près 1240 musées en France, et sur ces 1240, il y en a 167 qui ont zéro entrée payante. C'est-à-dire qu'il n'y a que les copains, les gens, les enfants des écoles de la commune qui viennent le visiter, et zéro vrai visiteur, on va dire. Donc bon, voilà, ça remet un petit peu à sa place ces musées-là.
Bon, en tout cas, on vous invite à visiter ce musée de Laval du cure-dent, un musée qui ne manque pas de piquant, je ne pouvais pas m'empêcher de la faire.
Y a un musée de la
est-ce que vous avez aussi une carte de France des endroits les plus criminogènes?
Alors non, celui-là on l'a pas fait. On y a pensé honnêtement. Voilà, on a dû faire une sélection parce qu'il y a 75 cartes, donc c'est déjà pas mal. Ça laisse largement la place à faire un tome 2. Voilà. Mais celui-là on l'a pas. Il y a les prisons par exemple, ce qui est, on va dire, en regard de votre question, mais sur les criminogènes non.
Thibaut Saint-Maurice.
Oui, il y a une question de Maya Mazorette qui voudrait savoir si vous avez une carte des endroits, des régions dans lesquelles les Français font le plus l'amour.
Alors non, il y a une carte des records. Effectivement, vers la fin de l'ouvrage, il y a une carte des records où il y a la ville recensée comme celle où on fait le plus l'amour, qui est l'amour qui est Aix-en-Provence. Voilà, et ce qui est assez amusant, c'est de savoir que à l'autre bout de l'Hexagone, tout au nord, Lille est la ville où il y a le plus de célibataires. Voilà. Donc est-ce qu'il faut faire des bus hein, de Lillois vers Aix-en-Provence? Voilà, un jumelage entre les deux, je me pose la question.
Je vous demandais s'il y avait une carte des France des endroits les plus criminogènes, parce que ça nous amène justement au livre, que l'un des livres que vous vouliez nous offrir ce matin, Christy Lapellé-Douel, spécialiste des pages livres dans Psychologie Magazine. Christy a un polar, 8 crimes parfaits de Peter Swanson, et vous m'avez dit en arrivant, c'est tordu et malin.
Oui, c'est tordu et malin. Et pour moi, c'est vraiment le livre parfait pour un long week-end qui s'annonce. Alors bien sûr, vous l'avez dit, les cadeaux, tout ça, mais celui-là, on peut l'offrir à quelqu'un qui passerait par hasard. Alors, l'idée de Peter Swanson, eh bien, c'est la suivante. D'abord, il est très très malin, première chose, il est très malin. Il est certainement lui-même amateur très cultivé de romans policiers. Et puis, voilà son idée. Son narrateur principal est libraire lui-même, libraire de livres d'occasion et de livres policiers, de romans policiers d'occasion aux États-Unis, à Boston. Voilà. Et pour faire vivre sa librairie, il a l'idée de lancer un blog. Et dans ce blog, un jour, il publie la liste des romans qui décrivent 8 crimes, des 8 livres qui décrivent 8 crimes parfaits. Très bien, le blog mène sa vie. Et un jour, de Tempête de neige, ça c'est bien pour le décor, je trouve, la Tempête de neige qui arrive,
cette saison,
les magasins qui ferment, les rues qui se vident, il est tout seul dans sa boutique et tape à la porte une jeune femme, et il se trouve que cette jeune femme est agente du FBI. Et elle arrive et elle lui dit, écoutez, voilà, est-ce que vous avez entendu parler de l'assassinat de Monsieur Machin, de la disparition de Madame Truc? Alors, il cherche, oui, peut-être. Il dit, c'est très étrange parce que j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose qui lie tous ces crimes, Et en regardant votre blog, il me semble qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être nous mettre sur la piste. Le libraire semble très étonné, la jeune femme s'en va, laisse ses coordonnées, etc. Et lui, peu à peu, il commence à se dire, mais qu'est-ce qui pourrait relier tout ça? Et bien entendu, il va partir sur la trace et il va mener lui-même l'enquête. Mais là où c'est très malin, c'est que au fur et à mesure qu'il avance, il se réfère bien entendu aux romans qui sont de véritables romans policiers, hein, Agatha Christie, il y en a un certain nombre. Et il se réfère au roman, il va aller chercher. Donc il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'histoire elle-même. Et puis enchâssé dans l'histoire, il y a les livres auxquels il fait référence. Premier niveau d'intelligence subtile. Et il y en a d'autres. Alors je ne veux évidemment pas déflorer ce qu'il se passe, parce que c'est tellement intelligent. Il y a plusieurs twists, comme on dit, dans l'affaire. C'est-à-dire que par moment, on va se dire « Ah, mais c'est ça !» Mais bien sûr, mais je l'ai vu venir. Eh ben non, c'est pas ça. Ou alors, c'est complètement autre chose et quelque chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Jusqu'à la fin, qui est absolument extraordinaire. C'est vraiment tordu. Mais quand je vous disais que c'était très malin, l'auteur attrape son lecteur dès la première page avec un avertissement qui pourrait être un réel avertissement d'auteur, vous savez, comme il y en a parfois. Mais là, bien entendu, c'est un faux avertissement puisqu'il s'agit du narrateur du livre. Et cet avertissement, donc première page, dit ceci. Le récit que vous vous apprêtez à lire repose en grande partie sur des faits réels. Cependant, certains événements et dialogues ont dû être reproduits de mémoire. Quelques noms et détails identificatoires ont été changés pour protéger des innocents. Et là, c'est impossible, je vous mets au défi de ne pas résister, de ne pas aller voir dans le livre de quoi il a été question. C'est un livre exactement ce qu'il nous faut pour cette fin d'année. Voilà, c'est aux éditions.
Rappelez le titre, l'auteur.
8 crimes parfaits. Traduit de l'américain par Christophe Cook, et c'est de Peter Swanson, c'est aux éditions, aux merveilleuses éditions Gallmeister, tellement formidable pour tout ce qui est du roman policier américain.
Merci Christina, et puis vous êtes arrivée aussi avec un autre livre. Alors, très gros dont vous nous avez parlé, 2 kilos.
Ouais, très gros et très très beau. C'est un livre qui s'appelle « Oiseau » et dont l'idée est la suivante. Il s'agit de nous offrir une grande partie de la manière dont les oiseaux ont été représentés à travers l'art, à travers la sculpture, à travers la photographie, à travers la peinture, etc. C'est d'une richesse extraordinaire.
Le dessin, la calligraphie.
Tout. Il y a tout. Il y a de la sculpture. C'est aux éditions Faidon, avec une introduction d'une historienne d'art qui s'appelle Catherine Avangrove, qui semble-t-il est très très célèbre dans le milieu des gens qui s'intéressent aux oiseaux. Et la qualité des reproductions, c'est un enchantement. Il y a Dürer, par exemple. C'est vraiment, c'est très beau. Très beau. Et j'en profite juste une seconde, Thomas.
Une seconde. Une petite seconde.
Une petite seconde pour dire que c'est le moment où il faut nourrir les oiseaux dans les jardins. Voilà.
Avec les petites boules de graisse,
oui,
mais pas trop non plus.
Pas trop. Et surtout à aller voir du côté maisons de la Ligue pour les oiseaux, parce que les boules dans le commerce sont très mauvaises pour les oiseaux.
Merci Christina. Et merci pour les oiseaux. Évidemment, le site de France Inter à la page Grand Bien Vous Fasse. Hein, sur le site, vous retrouverez toutes les références des livres dont Christina vient de parler. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking two together, cause we don't know how.
make something work. That's cool.
Love the exception.
So why yo? Are we so in denial? We're not happy here. Y'all don't wanna hear me. You just wanna dance.
Les rappeurs américains d'Outkast et ce titre est IA. C'est Valentine Chédebois qui s'occupe de toute la programmation musicale de Grand Bien Vous Fasse. L'émission a été réalisée à la fois par Claire Destacan et David Leprince avec à la technique Rémi Sistiaga, Johanna Gabriquet, Gilles Gaillard, Alexia Rivière, Julia Macaret, Stéphanie Valois, Camille Pougelaguier et Victorien Thomas m'ont aidé à les préparer. Merci beaucoup.
Voyager avec lui, c'est un rêve. Et vous explique tout le pays où qu'on pense.
Grand Bien Vous Fasse.
C'est là que le grand Charles, il a le grand 7. Là, c'est la région du Tricard. La Lyon où Alphonse a descendu Dédé. Un vrai géographe.
Thomas Chauvineau, sur France Inter.
Et on feuillette aujourd'hui cet atlas insolite avec toute la bande de Grand Bien Vous Fasse. Maya Mazorette, Thibaut de Saint-Maurice, Christy Lapé-Lédouel, Abdou Gnaba. Et puis donc l'auteur de cet atlas, Eudidale. Quel drôle de pseudo, dites donc, Eudidale. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est un clin d'œil aux grands encyclopédistes que je ne prétends pas être, hein, du XVIIIe siècle. Donc eux comme encyclopédie,
Didale, d'accord.
Didale comme Diderot et d'Alembert.
Voilà, ok, en tout cas avec vous, Eudidale, donc on balaie la France, si je puis dire d'ailleurs, du nord au sud, puisque vous allez de la Oissingue, dans le nord de la France, à la Panos, dans le sud, c'est-à-dire la Serpillière, hein, vous explorez aussi ces diversités linguistiques.
Oui, alors je n'entrerai pas dans le débat de la fameuse chocolatine, hein, mais voilà, ça
ah, mais
en fait partie.
Voilà.
Dont on voit très bien sur la carte, c'est intéressant, d'où l'intérêt d'une carte, hein, de cet aspect visuel, c'est qu'on voit que c'est très concentré dans le sud-ouest de la France, l'usage de chocolatine. Voilà, c'est ça fait partie justement de ces choses qui, grâce aux cartes, sautent immédiatement aux yeux.
Et alors à propos de linguistique, on trouve également dans votre livre le palmarès des insultes les plus données.
Ah.
Et là, mais je dois vous avouer que j'étais très 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 déçu.
Oh. Oui,
parce que vraiment un manque d'imagination flagrant.
Alors c'est extrêmement convenu d'une part. Je
vous
sais
laisse
pas si
les
peut...
dire, hein, je me permettrai pas.
Ouais, mais je sais pas. Voilà, justement, j'allais vous demander si on peut tout dire à l'antenne un matin, surtout le 24 décembre.
Vous pouvez.
Je peux, d'accord. Alors je vais la faire de mémoire. Dans le top 3, je vais remonter du 3, c'est enculé. Voilà, désolé. Le numéro 2, c'est putain. Et le numéro 1, c'est fils de pute. Voilà.
Vraiment de quoi être très déçu.
C'est ça, oui, parce que les très traditionnels connards ou merdes sont très très loin derrière. Ils sont vraiment dans les 8, 9, les places 8, 9, 10. Donc c'est assez décevant, effectivement.
Maya.
Bah, les sexualités restent un vecteur d'oppression, puisqu'on a avec enculé de l'homophobie, et ensuite sur fils de pute et putain, on a la putophobie. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour...
C'est pour ça que j'hésitais aussi à le dire. Je veux bien avouer.
Ouais, en même temps, quand je vous ai posé la question, il fallait forcément y répondre.
Oui, il fallait répondre. Voilà,
ouais. Et vous vous amusez également à faire le tour des, enfin, une carte de France finalement où on, des régions où on s'insulte le plus.
Alors. C'est peut-être moins surprenant, on s'insulte le plus en région parisienne, voilà. Alors il faut savoir qu'on s'insulte énormément au volant ou dans les transports. Donc est-ce que c'est la difficulté de transport en région parisienne qui induit ça? Là j'avoue que la réponse reste en suspens, mais effectivement on s'insulte à peu près deux fois plus en région parisienne qu'ailleurs. Donc c'est très très flagrant. Ouais.
Et alors pardon, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on s'insulte deux fois plus en région parisienne que ailleurs?
Il y a une grosse partie de déclaratif. Alors est-ce que les Parisiens sont, parce qu'ils justement ils vivent des conditions de vie un peu plus compliquées, un peu plus denses, un peu plus difficiles, ils se confrontent à plus de gens au quotidien tout simplement, ils ont l'impression de plus s'insulter, c'est probable. Dans tout ce genre d'enquête, il y a une grosse part de ressenti de déclaratif qui doit être un peu biaisé effectivement par la densité de population tout simplement.
Abdou, vous vouliez réagir?
Et en même temps, s'insulter, c'est créer un lien, même s'il est négatif, c'est quand même tisser.
L'anthropologue parle.
C'est
l'esprit de Noël, vraiment.
C'est ça, c'est tisser du lien. Et puis, c'est cathartique. Il vaut mieux s'insulter plutôt que de se battre. Donc,
c'est à Noël cette année,
insultez-vous.
Merci, Abdou. Joyeux Noël, en effet. Et puis, Angèle Ferremag est là avec nous. Bonjour, Angèle.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Alors qu'est-ce que vous cuisinez en ce réveillon de Noël?
Alors moi je suis en train là juste pour vous dire de créer des liens sans m'insulter parce que ma voiture est enlisée dans la neige et que je suis dans la voiture d'une inconnue en guise de studio d'enregistrement. Donc c'est vraiment l'esprit de Noël en Haute-Savoie. Et alors pour Noël, je vous ai préparé quelques petites recettes de repas végétal pour que ça plaise à tout le monde, au cas où dans l'assemblée il y ait certaines personnes qui consomment pas de gluten, pas de viande, pas de tout ça. Donc je vais commencer par vous faire un velouté de châtaigne poire, ensuite un chou-fleur rôti à la truffe et une bûche ultra simple.
Eh ben, on vous écoute.
Alors c'est parti.
Vous avez mis le chauffage quand même dans la voiture parce qu'on a froid avec vous là.
Ah non, mais je suis tellement bien, les gens sont en train de déneiger ma voiture pendant que je vous parle, je suis bien au chaud.
Incroyable. On vous écoute pour la recette, Angèle.
Alors, pour le velouté châtaigne-poire, en fait, je vous conseille déjà de le présenter dans un petit potimarron. Vous savez, ces petites courges qui s'appellent les Jack Bilittle, ça va servir en fait de contenant, comme des petits pots, et c'est vrai qu'on a rarement des jolis petits bols chez soi pour recevoir, et en plus, ça va permettre aux plus gourmands de les manger quand ils auront fini leur velouté. Donc en fait, on va prendre les potimarrons ou les Jack Bilittle, on va leur couper un peu le chapeau, les vider, on va les pré-cuire au four, ils vont donc nous servir de contenant pour plus tard. Et pour le velouté, on va commencer par faire revenir dans une cocotte les oignons, l'ail. Quand ça va bien crépiter, que ça va sentir super bon, on va ajouter des châtaignes déjà cuites, deux poires épluchées, et on peut même ajouter un petit peu de céleri boule si on en a, et de cardamome, qui est une épice qui va très très bien dans les veloutés. Ensuite, on va laisser dorer tout ça. Quand ce sera bien doré, on va rajouter un peu d'eau ou un peu de bouillon. On va bien mixer. Au dernier moment, on pourra même rajouter un peu de crème fraîche ou de crème d'amande. Et puis, avant de servir, on fera un petit croustillant, noix de Grenoble torréfiée à la poêle, auquel on ajoutera un peu de miel, un peu de sauce tamari pour bien que ça caramélise. Et ensuite, on videra tout ça sur du papier sulfurisé. Et on mettra dessus comme un petit croustillant qui va vraiment apporter une texture différente au velouté. Et l'avantage de ce velouté, c'est qu'une fois qu'il est fait, on le met dans nos petits contenants comestibles, donc nos potimarrons par exemple. Et ensuite, on peut les laisser au four. Comme ça, on peut les maintenir au chaud et pas besoin d'avoir un stress avant de servir, quoi.
Le truc, Angèle, c'est que vraiment, le chou-fleur, quand on le cuisine, ça pue un peu dans la maison, non? Non, c'est vrai. Bon, comment on fait pour éviter l'odeur du chou-fleur?
Alors moi, j'ai des astuces pour éviter les odeurs. Il y en a une que j'aime particulièrement parce qu'elle est très simple. C'est de mettre mon pain rassis dans le grille-pain très chaud et de lancer mon grille-pain plusieurs fois parce que je trouve que l'odeur du pain un peu cramé, c'est vraiment délicieux. Et sinon, on peut faire des pommes au four en même temps. Ou alors simplement ouvrir les fenêtres.
Oui, mais là, il fait froid. Enfin, il commence à faire un peu froid.
Il fait un peu froid, mais bon, ça fait partie du truc un peu. Ça va nous permettre de nous réchauffer, Maya, de nous coller les uns aux autres.
Et de nous donner faim.
Donc, pour le chou-fleur rôti, donc déjà on va le faire blanchir. Alors c'est peut-être ça qui va le faire, ça va être le seul moment où il va sentir un petit peu, et on pourra le faire en avance, on peut même le faire la veille si on veut. Donc on fait blanchir notre chou-fleur, selon le nombre d'invités ou selon la taille de notre chou-fleur. Moi j'aime bien en faire 3 petits par exemple pour 6 ou 7 personnes, ou alors 2 gros, ça ira très très bien. Donc on le fait blanchir, ça veut dire qu'on le met entier dans l'eau bouillante, quelques minutes ça suffira. Ensuite, on va le sortir. À l'aide d'un couteau, on va faire des fentes pour y glisser. Alors, ou de la truffe, si on a de la truffe noire, ou alors on peut très bien mettre du comté aussi, des grandes tranches de comté, c'est délicieux. Ensuite, donc on le glisse dans notre chou-fleur. Ensuite, on va badigeonner vraiment généreusement, comme pour faire une croûte d'un mélange de yaourt de soja ou de yaourt grec, qu'on aura mélangé avec de l'ail râpé, un peu de sel et un peu de poivre. On va enfourner 30 minutes à 170 degrés et on va le servir en part, un petit peu comme si c'était une viande, vous voyez. Et donc quand on coupera, donc le fromage ou la truffe vont embaumer, vont donner un effet vraiment très agréable. Et en fait, le chou-fleur va prendre toutes les saveurs parce qu'il va être dans cette croûte. Ça va être délicieux et on peut le servir avec une petite salade de mâche, avec une sauce échalote, vinaigre balsamique. C'est délicieux.
Là, on y est, on a tous les yeux qui brillent. On s'interroge aussi quand même sur l'état de déneigement de l'automobile. Ça se passe bien, ça avance.
Écoutez, tout le monde travaille, il y a une dizaine de personnes à ma gauche. Moi, je suis toujours aussi confortable. Je vois que les enfants crient et tout ça. Mais alors, rien de matin, parce que c'est Noël et que la vie est belle.
Formidable. Alors, et le dessert?
Alors, pour le dessert, donc moi, j'aime bien. Alors, je trouve que les bûches, c'est toujours un peu compliqué. C'est parfois un peu ringard et tout ça. Mais par contre, le gâteau au chocolat, ça marche tout le temps. Donc, je vous propose un gâteau au chocolat, mais ultra simple. Il n'y aura pas d'étape compliquée, avec seulement 3 ingrédients dedans. Et qui va être fait très très vite. Le seul truc dont on a besoin pour cette recette, c'est d'un moule à 4 quarts ou d'un moule à bûche. Vous voyez qu'il soit un petit peu long, un petit peu rectangulaire pour que ça puisse faire un peu l'effet bûche de Noël. Donc pour ce gâteau, on va faire fondre, écoutez bien parce que c'est très très simple et ça marche à tous les coups, c'est inratable. On va faire fondre 100 g de chocolat noir. Une fois qu'il est fondu, on va le mélanger avec 500 g de purée de marron. Vous savez, la purée de marron qui est déjà légèrement sucrée. Mmh. 3 œufs, on mélange bien, on le met dans notre moule à 4 quarts et on enfourne 45 minutes à 150 degrés. C'est rien à faire. Et quand on le sort du four, on le laisse refroidir, on le démoule et là, on peut éventuellement le recouvrir de chocolat fondu et on peut faire une petite déco de bûche de Noël si on veut avec des fruits rouges congelés qu'on aura congelés l'été ou alors du sucre glace ou de la noix de coco râpée pour faire un peu l'effet neige quoi.
Et puis éventuellement l'odeur de la cuisson du chocolat aura peut-être masqué celle du chou-fleur et c'est génial, on joint l'utile à l'agréable. Et bien merci Angèle, j'espère que vous allez pouvoir vite redémarrer avec votre voiture.
Oh, tout va bien, moi je suis très bien aussi.
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de votre recette. Bonne fête à vous également. Et puis évidemment, hein, vos recettes, vos 3 recettes sont sur le site de l'émission à la page Grand Bien Vous Fasse sur franceinter.fr. Alors, il n'y avait pas de fromage dans le menu proposé par Angèle, mais dans votre livre, dans votre atlas Didal, des fromages, il y en a, puisque vous revenez sur le nombre incroyable qu'il y a de fromages en France, plus d'un millier de fromages fabriqués dans le pays.
Oui, plus d'un millier. Alors, de mémoire, hein, le général de Gaulle mentionnait le fait qu'il y en avait un par jour de l'année, donc c'est largement plus qu'un par jour de l'année. C'est effectivement plus d'un millier. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un chiffre en perpétuelle évolution, parce qu'ils sont créés en permanence. Il y a des déclinaisons. Certains sont litigieux. Sont-ils vraiment français ou d'origine plutôt belge, néerlandaise, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vivant. Ce qu'il faut retenir, c'est
la mixité aussi dans le fromage.
Hein. Oui, c'est la mixité. Exactement.
La diversité culturelle
la
du fromage.
La diversité culturelle du fromage. Et puis surtout, le fait que la France, par la qualité de ses produits, sa production de lait, et le pays au monde où effectivement il y a la plus grande diversité.
Et puis ce Tour de France ne serait pas complet sans un panorama de ces villes et villages aux noms qui peuvent parfois être un peu gênants. Alors évidemment il y a Montcuq qui est très connu dans le Lot, mais vous évoquez aussi, on le connaît un peu moins, par exemple le village des Deux Verges dans le Cantal.
Ah, il y a les Deux Verges.
Maya fait oui la tête, elle connaît le village des Deux Verges.
Bon, si t'es, il y a l'orgie dans le Nord, il y a bisous, il y a Duranus, il y a anus, voilà, donc pour toutes les métaphores autour de la sexualité, il y a le très connu arnaque la poste, voilà, qui fait doit beaucoup faire sourire dans les bureaux de poste de la région. Et puis il y en a un très connu aussi qui est condon. Alors celui-là est amusant spécifiquement parce que il est amusant, mais pas dans notre langue. Il est amusant en anglais.
En anglais, oui.
Voilà, à tel point qu'il y a une anecdote que je mentionne dans le livre, qui est que le fameux film de Étienne Châtillier, qui était Le Bonheur est dans le pré, qui avait été tourné dans un village qui n'est pas Condon, a été faussement, on va dire, situé dans le film à Condon pour attirer le public anglo-saxon, parce que eux, ça les fait rire, et donc il y avait l'idée que ça les amuserait, que ça les intéresserait de venir dans la région.
Alors il faut peut-être préciser ce que peut signifier Condon en anglais,
oui, pardon,
parce que
préservatif,
tout le monde ne sait pas forcément, tout le monde n'est pas forcément anglophone. Et alors moi, il y a un nom de ville que j'adore, enfin c'est un village en l'occurrence qui est dans la Drôme et qui s'appelle Glandage. Je trouve ça formidable aujourd'hui de vivre dans un village qui s'appelle Glandage.
On peut dire que c'est un projet de vie, effectivement.
En tout cas, merci. Je recommande votre atlas Cartomania France, l'atlas insolite de culture générale. Ça peut être aussi à glisser sous le sapin si vous n'avez pas d'idée, qu'il vous en manque une pour ce soir ou pour demain matin. C'est aux éditions de La Martinière. Et puis, si au cours du repas, vous ne savez pas trop comment aborder la conversation ce soir, Thibaut de Saint-Maurice a pour vous la solution. C'est l'heure de la chronique philo.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors Thibaut, vous nous proposez un petit tuto philosophique pour bien préparer les conversations du réveillon et des repas de fête.
Ben oui Thomas, parce qu'on le sait, les repas de fête, comme ce sont le plus souvent des repas de famille, eh bien ce sont parfois des repas assez délicats à aborder. A fortiori, quand il y a du pass vaccinal dans l'air, une élection présidentielle qui se profile, et puis des soupçons de triche à Koh-Lanta.
Surtout des soupçons de triche
à Koh-Lanta. Donc, autant de sujets qui divisent et qu'il ne faut peut-être mieux pas aborder pour ne pas que le repas se termine en engueulade.
C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris?
Non, mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps! Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer, des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi, merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, quel genre de mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Écoute, François, écoute.
Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un bout de dimanche, petit chico à la con! Merde!
Voilà, c'était donc Vincent François
Joyeux
Paul
Noël
et les autres
de
Claude Sautet. Voilà, donc c'est pour ne pas que vos repas ressemblent à ça ce soir. Pas facile donc d'envisager hein, de belles conversations tous ensemble autour de la table, d'autant que notre époque est plutôt celle du clash ou du commentaire insultant sur les réseaux. Je vous propose donc d'aller chercher du côté des professionnels de la conversation que sont les philosophes, quelques conseils, tutos pour essayer d'avoir de belles conversations tout à l'heure hein, ou demain ou les jours à venir pendant vos repas.
Et tout commence justement par un banquet philosophique.
Oui, c'est vrai, on pourrait commencer par aller voir du côté de Socrate et des fameux, vous savez, dialogues de Platon, conversations de Platon, voilà, notamment de celui qui a lieu au cours d'un banquet, qui s'appelle le banquet, pour observer la manière dont ça se passe. Socrate et ses amis prennent plaisir à converser parce qu'ils sont d'abord convaincus qu'il est possible de faire naître des vérités à partir de conversations authentiques. Autrement dit, tous ceux qui prennent part à la conversation sont au moins d'accord sur le fait qu'une conversation peut faire progresser la réflexion de chacun. Et puis si on observe la technique de Socrate, eh bien c'est qu'il lance et anime la conversation par des questions. Puis il rebondit sur ce que les interlocuteurs disent par d'autres questions pour demander des éclaircissements ou pointer les contradictions. On a là une première manière de faire assez inspirante parce que l'affrontement n'est pas direct mais petit à petit se construit sous la forme d'un questionnement partagé. Deuxième inspiration possible, l'art de la conversation que développent les salons et les échanges à l'époque des Lumières. Là, sous différentes formes, à différents moments, les Diderot, les Voltaire, les D'Alembert, les Rousseau ont participé de façon plus ou moins suivie à des conversations dont une des règles ou une des caractéristiques était de pouvoir se continuer malgré les désaccords. Le but, c'était pas forcément de convaincre absolument tous les interlocuteurs, mais d'argumenter son point de vue tout en accueillant d'autres points de vue. On peut donc essayer d'aborder la conversation de ce soir de cette manière, hein, non pas chercher à convaincre tout le monde autour de la table, mais rendre possible l'expression des accords en étant d'accord pour ne pas être d'accord. Et puis enfin, troisième inspiration, la manière dont la philosophie contemporaine pense la conversation comme une ressource morale. Le philosophe américain Stanley Cavell voit dans la conversation l'occasion de se rendre intelligible aux autres et à soi-même, comme il dit, à la condition d'être écouté et d'écouter les autres. Ça suppose, là encore, d'envisager nos conversations, même les plus ordinaires, non pas comme des moments d'affrontement où tout le monde va juger tout le monde, mais aussi comme des moments tout simplement d'expression et d'écoute de la voix singulière de chacun, parce que dans une conversation, l'écoute compte autant que la prise de parole. Voilà, je vous dis pas que c'est facile, hein, mais il nous reste quelques heures pour y réfléchir, et pourquoi pas commencer le réveillon par une conversation sur les conditions d'une bonne conversation.
Je serais curieux d'assister à un réveillon chez les Saint-Maurice, chez les deux Saint-Maurice. Qu'est-ce mais qu'on
venez,
se dit
venez.
De quoi on parle?
Vous êtes les
comment on engage la conversation,
voilà, avec joie,
du début à la fin, jusqu'au dessert, jusqu'au café pousse-café.
C'est ça, bah écoutez, vous êtes le bienvenu. Venez, demain midi.
Eh bien, merci. On avait commencé l'émission, Abdou, en parlant des cadeaux, et vous nous disiez que un cadeau, finalement, voilà, rien n'était jamais gratuit et qu'on faisait un cadeau de manière intéressée, systématiquement. Quel regard porte l'anthropologue que vous êtes sur ces réunions de famille, sur ce qu'on se dit et sur ce qu'on ne se dit pas aussi, justement?
D'abord, le cadeau sémantiquement a évolué pour devenir, à partir du XVIIIe siècle, le synonyme d'un bon repas et d'un régal. Donc un cadeau, c'est d'abord et avant tout un festin. Et si c'est un festin, c'est parce que cuisiner, c'est donner une part de soi à l'autre. Et être sûr que cette part de soi soit partagée, justement, et magnifiée autour d'un moment de commensalité. Ce qui nous apprend que le cadeau objet lui-même n'est rien d'autre qu'une part de soi que l'on donne à l'autre pour signifier sa présence et mettre de la valeur sur le lien que l'on entretient avec lui. Mais alors la difficulté, c'est justement de faire un cadeau qui a un prix congruent, ni trop cher, ni pas assez cher, mais qui n'a pas de prix non plus, justement. Donc en fait, un cadeau, c'est de la matière et c'est de l'art. C'est une œuvre en soi qui est l'expression du donateur. Voilà. Donc il faut devenir artiste en offrant le cadeau si juste qu'il anticipe le désir de l'autre sans jamais le mettre mal à l'aise, tout en lui signifiant l'amour que vous lui portez. J'espère que ce soir, beaucoup auront répondu à ce cahier des charges.
Vous faites quoi ce soir? Vous allez chez Thibaut de Saint-Maurice?
Je suis déjà invité. Mais il ne le sait pas.
C'est ça le cadeau.
On comprend qu'il faille une année pour préparer un tel cadeau quand même.
En tout cas, merci Thibaut. Votre chronique est à retrouver sur le site de France Inter. Musique et puis juste après, Maya Mazorette et une chronique qui, pour une fois, s'adresse aux enfants.
Quand tu te sers, j'aime quand...
Elle est normande mais ardennaise de cœur, la chanteuse Fishback et ce titre Masque d'or. Et évidemment, toute la programmation musicale est sur le site de l'émission.
Ouh. Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et une fois n'est pas coutume, donc je le disais, votre chronique sexo, Maya, s'adresse aux enfants, enfin du moins, bon, plus ou moins.
Plus ou moins, exactement. C'est mon cadeau de Noël à moi. Répondre à une question qui, j'en suis sûre, turlupine pas mal de marmots. Pourquoi les adultes font l'amour? Et au-delà de ça, une autre question plus vaste. C'est quoi le problème avec la sexualité? C'est quoi l'embrouille? C'est quoi le secret? Non, parce que les enfants, ils sont pas débiles. Ils sentent bien qu'on leur cache des choses. On leur dit que la sexualité est formidable. Et en même temps, on leur explique qu'elle est dangereuse. On leur dit que c'est pas sale. Mais en même temps, faut pas en parler. Faut même pas y penser. On leur dit que ce sont des sujets privés. Très bien. Mais en même temps, il suffit d'allumer sa télé ou sa radio pour constater que les affaires privées sont des affaires publiques. Bref, tu m'étonnes que les enfants aient envie de poser des questions, et tant mieux en fait, parce que c'est génial d'être curieux et de poser plein de questions. Ensuite, le problème, c'est qu'il faut leur répondre.
Et c'est là que ça commence à devenir compliqué.
Oui, chers enfants, je me vois obligée de vous avouer une vérité difficile. Les adultes vous mentent comme des arracheurs de dents. Par exemple, ils disent que la sexualité sert à faire des bébés. Ouais, d'accord. Mais si tous les rapports sexuels servaient à faire des bébés, on serait 800 milliards sur cette planète. Et écologiquement, ça ne serait pas soutenable. C'est la même chose quand les adultes vous disent que la sexualité sert à exprimer son amour. C'est vrai, enfin ça peut être vrai, mais dans ce cas-là, pourquoi maman est-elle sur Tinder pendant que papa est en séminaire à Barcelone avec son meilleur ami? Non, je suis désolée de vendre la mèche, mais il y a plein de gens qui font l'amour sans s'aimer, de même qu'il y a plein de gens qui s'aiment et qui ne font plus l'amour.
Oui, on peut aussi faire l'amour juste pour le plaisir.
Ouais, et là seulement on commence à sortir des contes de fées. Si les adultes font l'amour, c'est aussi parce que quand c'est bien pratiqué, le sexe donne du plaisir dans le corps et aussi du plaisir dans la tête parce qu'on ressent plein d'émotions. Grâce à ce plaisir, on se découvre soi-même et on découvre l'autre et ça, c'est super. Mais c'est pas tout. Et là, on rentre dans le côté obscur du sujet. Parmi les raisons moins avouables qui motivent la sexualité des adultes, il y a aussi le pouvoir. Certains penseurs disent même que c'est une des raisons les plus importantes. Pour affirmer tout ça, ces penseurs utilisent la théorie de l'évolution inventée par Darwin. Selon une branche de cette théorie, on peut regarder la nature pour expliquer notre comportement. Et ce que les chercheurs observent dans la nature, par exemple chez certains grands singes, c'est que seuls les plus forts peuvent se reproduire. Et comme les humains descendent du singe, ces chercheurs pensent que pour nous aussi, le sexe n'est jamais seulement du sexe. C'est aussi une manière de montrer qu'on est le plus fort. Ça, si c'était vrai, ça voudrait dire qu'on montre sa valeur par la sexualité comme un espèce de grand concours de popularité. Enfin, je rajoute une dernière raison. Les adultes s'intéressent au sexe parce que c'est interdit. Enfin, c'était interdit de s'y intéresser dans le passé et le poids de cet interdit survit encore aujourd'hui. En tant qu'enfant, vous le savez, il n'y a rien de plus attirant que ce qu'on n'a pas le droit de faire. Le sexe attire les adultes parce qu'il leur donne l'occasion de faire des bêtises, mais normalement des bêtises pas trop graves. C'est une question, c'est une raison un petit peu enfantine de faire l'amour, donc elle est un petit peu embarrassante à avouer.
Oui, mais c'est peut-être pour ça que les adultes mentent aux enfants.
Ouais, mais je crois qu'il y a encore autre chose de beaucoup plus simple. Si les adultes ne répondent pas aux questions des enfants, c'est parce qu'ils n'ont pas la réponse. Ils ne savent pas ou pas toujours pourquoi ils font l'amour. Il y a une part de mystère qu'on n'arrive pas bien à élucider, même les grands philosophes et les grands scientifiques. Donc, chers enfants, quand les adultes vous racontent des mensonges, il ne faut pas trop leur en vouloir. Ils se racontent les mêmes mensonges à eux-mêmes. Comme disait un penseur, dont on célèbre la naissance à Noël, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En sexualité, on ne sait pas toujours ou toujours pas ce qu'on fait.
Moi, je pense que vous savez très bien ce que vous faites, Maya. Merci. Votre chronique est à retrouver sur le site de l'émission. Et merci d'avoir été dans Grand Bien Vous Fasse aujourd'hui. Cette émission peut se réécouter quand vous voulez, où vous voulez, sur franceinter.fr ou sur la plupart des plateformes de podcast. Lundi, vous retrouverez le maître des lieux, Ali Rebéi, qui sera de retour avec une émission consacrée à l'alimentation et à la santé. Et puis toute l'équipe de Grand Bien Vous Fasse vous souhaite évidemment un joyeux Noël.